Deux images glaçantes ont simultanément fait le tour du monde. D'une part, une nonne jetée à terre par un juif à kippa en plein cœur de Jérusalem, et d'autre part, un gâteau en forme de potence offert à Itamar Ben-Gvir pour son anniversaire de 50 ans. Deux clichés qui cristallisent à eux seuls nombre d'interrogations qui agitent le monde juif contemporain. De quoi cette violence est-elle le nom ? Que dit-elle des mutations du sionisme ? Et comment qualifier le lien qui nous unit, nous, juifs de diaspora, à Israël ? Des questions parmi de nombreuses autres avec lesquelles vous ferraillez, Nathan Devers, dans cette grande fresque qui est votre dernier livre publié chez Gallimard, « Aimer Jérusalem ». Bonjour, Nathan Devers.
Bonjour.
Un mot de présentation, 29 ans. Docteur en philosophie, c'est déjà votre huitième ouvrage. Anciennement chroniqueur sur CNews, à présent animateur d'une émission sur France Info, le pour et le contre, d'une autre sur France Culture qui s'appelle « Sans préjugés ». C'est impressionnant. Ce qui revient souvent quand on parle de vous, c'est que les gens disent « Nathan Devers, très brillant, il a un peu quelque chose d'un mini BHL ». Comment ça résonne en vous, ça ?
Ça résonne de plusieurs manières. À la fin de mon livre, l'un des derniers chapitres, je raconte ma rencontre avec Bernard-Henri Lévy, qui est une rencontre qui n'a pas eu lieu, contrairement peut-être à ce que les gens qui disent que je suis un mini BHL peuvent imaginer, qui n'a pas eu lieu, je dirais, la rencontre s'est passée par le texte, et non pas par des raisons sociales ou non pas par des raisons mondaines. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant, j'étais en hypocagne. Un soir, je me retrouve à aller au théâtre voir une de ses pièces, mais sans le connaître ni d'Ève ni d'Adam, sans avoir jamais rien lu de lui, devant cette pièce qui s'appelait Hôtel Europe. Et je n'ai absolument aucun a priori face à la pièce que je vais voir, ni positif ni négatif. Je ne connaissais de Bernard-Henri Lévy que BHL, à savoir un personnage, le personnage public et une réputation est toujours réductrice. Et je suis tombé vraiment, en une forme d'extase face à ce texte que j'ai trouvé absolument génial, d'intelligence, de profondeur philosophique, mais à laquelle il donnait un lyrisme, une poésie, une énergie, une incarnation. Et je me suis dit, en gros, mais c'est qui ce type ? Mais c'est incroyable ! Et donc, j'ai lu ses autres livres, et puis après...
Vous lui avez envoyé une lettre ?
Je lui ai envoyé une lettre.
On continue dans le texte.
Exactement,
en fait.
Par le texte, voilà. Et on s'est rencontrés, et après, j'ai appris à apprécier l'homme. Et ça a un lien avec le sujet de ce livre, c'est que quand je me suis éloigné de la religion, la problématique de vie concrète, existentielle, qui était la mienne, c'est qu'évidemment, on ne cesse pas d'être juif, même si on prend de la distance par rapport à la religion. En revanche, comment on le reste ? Donc, la problématique qui était la mienne, et c'est un peu le voyage intérieur que j'essaye de raconter aussi dans ce livre, c'est comment inventer, en tout cas pour moi, un autre judaïsme, une autre manière de me sentir juif, un judaïsme de me sentir juif, un judaïsme de l'intérieur.
Et ça, vous l'avez trouvé chez Bernard-Henri Lévy.
Exactement.
Et j'ai l'impression que vous avez trouvé autre chose chez lui. Vous dites que c'est la naissance d'une amitié. Je vois aussi quelque chose qui ressemble à un maître chez lui par rapport à vous. Vous lui devez peut-être aussi son sens d'une... Vous décrivez une très grande assiduité au travail. C'est un énorme travailleur, en fait. Et ça aussi, on n'écrit pas autant de livres en passant son temps dans des mondanités.
Exactement. Et c'est là que je vous disais sur les images publiques qu'elles sont réductrices. C'est que c'est quelqu'un qui est un bourreau de travail. Moi, quand je l'ai rencontré, par exemple, il m'avait dit « Ah, vous verrez, je ne dors pas la nuit. Je dors 2 heures, mais... Je me disais, bon, oui, il y a plein de gens qui disent qu'ils ne dorment pas la nuit, c'est pas pour autant qu'ils vont téléphoner à 3 heures du matin. Eh bien, lui, si. Jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin, il peut vous appeler en plein travail et ça peut commencer à 5 heures, 6 heures du matin. Mais ce n'est pas un cas isolé. Les romantiques de la première génération, dans la mémoire littéraire, on a l'impression que c'était des gens qui étaient uniquement dans le vague des passions, dans une sorte de rapport d'effusion à la littérature, de pure inspiration, et que ce n'étaient pas des grands bosseurs. Or, ce n'était pas vrai du tout. C'était des bourreaux de travail. Et très souvent, mais ça, c'est vrai de la littérature et c'est vrai peut-être de la vie, les gens qui ont la réputation d'être des travailleurs ne le sont pas tant que ça. Ils sont souvent un peu des guignols.
Des gens qui sont tout le temps sous l'eau.
Exactement. Et ils sont à leur bureau, mais on ne sait pas trop ce qu'ils foutent dans leur bureau. Et réciproquement, les vrais bosseurs passent pour des... Enfin, le travail efface le travail.
Et BHL vous a dit, l'écriture, mon coco, c'est un travail de chien.
Exactement.
Ouais. Parce qu'on se pose la question, à votre sujet, en fait, Nathan Devers, on vous voit à gauche, à droite, sur tous les plateaux et tout ça, on se dit, mais quand est-ce qu'ils trouvent le temps pour écrire, pour produire, pour penser tout ça ?
Bah je peux pas vivre sans avoir un rapport au texte. C'est-à-dire que quel que soit le degré de ce que je fais en dehors, alors les médias ça prend du temps, mais ce qui prend le plus de temps c'est d'enseigner, là c'est pas mon castanet, mais enseigner à l'université, faire des colloques, etc. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Mais quelle que soit la chose, je peux pas vivre sans texte. Et je crois d'ailleurs que c'est très lié à l'identité juive. Je ne peux pas vivre sans me réveiller. Donc là, avec cet emploi du temps, je ne sais pas, ça suppose de se réveiller le plus tôt possible, à 6 heures si possible, à 7 heures si possible, de tout couper, d'éteindre les téléphones, en tout cas d'être dans une bulle mentale absolue et de travailler jusqu'à ce qu'ensuite ce soit plus possible parce que le monde vous dit de faire autre chose.
Donc, quelque chose presque un peu de monacal.
De monacal, bien sûr, oui, oui.
Alors justement, le rapport au texte. Dans votre précédent livre, non pas le précédent, celui d'avant, Penser contre soi-même, vous racontiez que vous aviez choisi ce nom, ce pseudonyme de Devers, parce qu'il dit ce mouvement de balancier que vous entretenez avec la tradition juive. Comment vous étiez passé de jeune bachour, de jeune juif religieux à apostat. Et pourtant, ce livre, Aimer Jérusalem, est bourré du début à la fin de références bibliques. On a l'impression que vous n'en avez pas vraiment fini avec la Torah, non ?
Non, justement. Et c'était tout l'objet de ce livre, c'est que même en m'étant éloigné de la religion, dans ce que je vous disais, cette recherche personnelle, mais d'une autre manière de me sentir juif ou de l'être, eh bien ça passe avant tout, parce que c'est la thèse de mon livre, mais peut-être qu'on y reviendra, ça passe sur un rapport au texte. Et en l'occurrence, au texte biblique, au texte talmudique aussi, bref, au texte juif, en essayant d'avoir un autre regard que celui que je pouvais avoir quand j'étais religieux. Attention, je ne suis absolument pas en train de dire que le regard religieux sur les textes serait un regard idiot ou irréfléchi ou non philosophique, ce serait complètement...
En tout cas, dans votre cas, ce n'est plus le même regard.
Bien sûr, mais ce n'est pas le même regard. Et alors, c'est d'abord un regard poétique. Le texte biblique, quand on a la chance de pouvoir l'étudier en hébreu, alors même s'il y a parfois des mots qui sont techniques, qui sont précis, qu'il faut aller voir évidemment dans la traduction, mais quand on a la chance de pouvoir se retrouver face à un passage des prophètes, face à des psaumes, face à un passage de la Torah quelconque, et de voir la poésie absolument, absolument folle de ces textes-là, en tout cas pour ma part, c'est à travers ça que j'écris dans la langue française. Et ça, c'est la première chose. Je n'ai jamais cessé de lire la Bible et de la travailler, et de la travailler en tant que lecteur, et de la travailler en tant que lecteur poétique. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a aussi un regard de pensée à avoir sur la Bible, à savoir que le texte biblique pense. Et on peut évidemment, c'est pas du tout incompatible avec une lecture religieuse, mais une lecture philosophique de la Bible est tout à fait possible. Je pense qu'elle est à certains égards aussi nécessaire.
Puisque vous parliez de poésie, j'ai écouté très récemment une émission passionnante que vous avez animée sur France Culture, dans Sans Préjugés, sur l'Odyssée.
Oui.
Avec l'auteur de L'Odyssée de l'Odyssée, j'ai appris énormément de choses, même si on connaît rien à Homère. C'est passionnant. Il y a presque un travail de Limoud sur le sens du premier mot de l'Odyssée dont on ignore le sens. Il y a ce souffle poétique chez Homère. Il y a vraiment quelque chose qui résonne avec la Bible. Fondamentalement, quelle différence vous voyez-vous entre la Bible, la Torah, et une œuvre comme l'Iliade et l'Odyssée ?
C'est drôle parce que quand j'ai fait cette émission, je ne l'ai pas dit, mais je ne pensais évidemment qu'à ça. À savoir le fait, et notamment quand Christophe Onedibio rappelait que pour Platon, que pour Hegel aussi, l'Odyssée a inventé le peuple grec, qu'elle l'a non seulement éduqué, mais qu'elle l'a inventé, je me disais qu'il y avait une vraie ressemblance, une vraie gémellité entre la Bible et l'Odyssée. Je crois que dans la Bible, il y a quand même deux ou trois singularités. D'abord, moi, c'est ma thèse, cette idée que la Bible est un livre qui a engendré le peuple d'Israël. Que le peuple d'Israël, que le mot d'Israël, avant d'être le nom d'un État, avant d'être le nom d'un peuple, est une idée. Une idée qu'on peut considérer comme un concept, comme une notion philosophique, qu'on peut théoriser comme telle, et dont on peut être le citoyen intellectuel. En l'occurrence, dans la Bible, c'est le moment, on reviendra peut-être là-dessus, mais où Jacob se bat avec l'ange dans la Genèse, et qu'au moment de sa victoire, l'envoyé lui dit « Tu t'appelleras désormais Israël, Kisarita, parce que tu t'es battu, im Elohim, avec Dieu. » Le contraire d'une théocratie. L'idée qu'on se bat avec la transcendance, avec l'idéal, avec le Très-Haut, et avec les hommes, et se battre contre les foules, ne pas rentrer dans des idolâtries politiques quelconques, ou sociales, ou historiques, et tu as gagné. La fragilité, l'insolence, l'irrévérence vis-à-vis du ciel peut être une source, non pas de fragilité, mais de puissance. Mais je crois que la grande singularité de la Bible aussi par rapport à l'Odyssée, c'est que la Bible parle beaucoup de malheur. et que ces malheurs-là sont écrits, et que, force est de constater, dans le climat actuel, c'est particulièrement troublant, que ces malheurs ont fini par advenir historiquement.
Oui.
Et alors ça, c'est aussi une des grandes singularités du texte biblique.
Mais Ulysse est aussi un homme très tourmenté. Il a aussi beaucoup de malheurs. Enfin, c'est quand même l'histoire d'un homme perdu et qui...
Vous avez raison, mais Ulysse est un homme très tourmenté. Oui. Mais d'abord, il n'y a pas de malédiction, entre guillemets, vis-à-vis du peuple grec dans l'Odyssée.
Il n'y a pas de destin grec dans l'histoire.
Il n'y a pas tellement de destin du texte. Autant la pensée grecque est une pensée du fatum, du destin, des dieux qui donnent des verdicts sur les hommes, avec laissant peu de place à la liberté humaine. Autant, dans le cas de la Bible, là où c'est très différent... c'est qu'il y a presque une sorte d'alliance nouée avec le texte, disant systématiquement, les prophètes le disent, le Deutéronome le disent, attention, si vous vous écartez de cette alliance, vous aurez telle ou telle malédiction, vous aurez tel ou tel malheur. Et je crois, par exemple, si on pense au 7 octobre, mais si on pense à tous les autres malheurs de l'histoire d'Israël, ce qui est particulièrement traumatique dans ces malheurs, c'est que non seulement un événement comme le 7 octobre a réveillé des traumatismes historiques, la mémoire des pogroms, la mémoire de la Shoah, la mémoire, etc., mais il a réveillé plus profondément un traumatisme textuel. C'est un malheur qui a été écrit avant d'advenir. Alors si on est mystique ou si on est religieux, on peut se dire que c'est parce que c'était une parole divine. Si on a un regard philosophique là-dessus, on peut se dire que c'est aussi une textualité de l'être juif qui est très particulière et qui est, je pense, par exemple, très différente de ce qui est le cas chez les Grecs. Moi, en fait, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, et notamment au tout début du livre, quand je radicalise cette idée du peuple livre, je dis le peuple juif, c'est l'histoire d'un peuple qui est sorti d'un livre, qui donc, même s'il ne s'en rend pas compte, ne se meut jamais directement dans la réalité. Son origine, son fondement ne procède pas de la réalité, il n'est pas ethnique, il n'est pas historique, il n'est pas géographique, il est textuel. On est habité de la fiction, on est habité de l'imaginaire, on est fils, en un sens, de la littérature. Et à cet égard, le texte biblique ne cesse de dire, dès lors que tu oublieras cette provenance textuelle, dès lors que tu penseras t'implanter directement dans le réel, tu vas avoir des énormes problèmes parce que le réel... va te menacer de t'anéantir. Et c'est notamment toute l'expérience de la souveraineté politique dans la Bible.
D'où la question du sionisme que vous traitez en profondeur dans ce livre. Et vous allez quand même loin dans cette idée que les Juifs, c'est le texte. Je me suis dit, le point commun entre vous et BHL, c'est aussi que vous avez des ennemis dans les deux camps. C'est-à-dire les antisémites, évidemment, ça va sans dire. Mais vous faites aussi, je pense, grincer des dents du côté juif. Parce que vous dites que la terre d'Israël, en fait, incarnée par Jérusalem, c'est comme la Baalbek de Proust. Vous pouvez nous expliquer ça ?
Oui, mais justement, sur ce point, je ne suis pas sûr que ce soit négatif vis-à-vis du sionisme. Je crois que c'est précisément l'inverse. Proust, il y a un passage dans La recherche du temps perdu qui est absolument hallucinant. C'est au début de Sodome et Gomorre. C'est le passage où Proust découvre l'homosexualité. Il voit deux personnages qui s'accouplent. Il voit ça à travers une fenêtre, qui s'accouplent dans une cour. Et comme des bourdons et une fleur, etc. Et il se dit, il découvre la possibilité d'une relation homosexuelle au narrateur. Et alors là, c'est très étrange, parce que Proust fait un long développement sur ce qu'il appelle le peuple homosexuel. Enfin, c'est-à-dire l'idée de gens qui, dans la vie extérieure, dans la vie publique, se cachent, se font passer pour hétérosexuels, s'assimilent en un sens, et qui ont une vie cachée, intérieure,
maranisme.
Et maranisme de l'homosexuel. Et évidemment, il compare ça aux Juifs. Et alors là, dans cette longue comparaison, métaphore filée, etc., il y a une conclusion qui est lunaire, où il dit, c'est pourquoi il ne faudrait pas qu'il y ait un mouvement sodomiste, et il compare ça au sionisme, qui viendrait rassembler les homosexuels dans la Sodome détruite, parce qu'en fait, Proust, il fait en un sens du Midrash. Il dit, et c'est évidemment métaphorique, hein, mais il dit, à la destruction de Sodome, contrairement à ce que dit la Bible, tous les sodomites ne sont pas morts. Certains sont sortis en se faisant passer pour hétérosexuels, sont allés dans le monde entier et ils se sont cachés.
Donc c'est une métaphore du peuple juif.
C'est une métaphore du peuple juif. Et donc imaginons qu'ils se mettent à rebâtir Sodome pour en faire un état-nation en un sens des invertis, parce que Proust emploie le mot inverti. Eh bien Proust dirait en fait, il finirait par s'y ennuyer. Et il finirait par se dire, on préférait vivre en minorité parmi les hétérosexuels. Évidemment, la comparaison avec le sionisme est évidente.
Pardonnez-moi de vous couper, est-ce que ça, c'est un discours, pour appeler un chat, un discours diasporiste que vous tenez ?
En fait, ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est que la théorie de la textualité du peuple d'Israël, elle a souvent été défendue par, disons, des antisionistes ou des diasporistes, c'est-à-dire des juifs souvent, qui disaient, d'ailleurs Steiner le dit en toutes lettres, le peuple juif a eu une histoire trop grande, il se déploie dans les bibliothèques, il se déploie dans la science, il se déploie dans la littérature.
Notre pays, c'est le savoir.
Notre pays, c'est le savoir. Ce serait complètement mesquin d'estimer que l'avenir du peuple juif, c'est de construire un État-nation. Ça veut dire quoi ? On va construire des centres d'impôts, on va construire un aéroport, on va gérer des problèmes d'égouts, en l'occurrence ne pas les gérer à Tel Aviv, etc. etc. Et Steiner se dit, c'est complètement mesquin. Proust est un peu dans la même logique. Proust se dit, c'est complètement dommage pour les Juifs de venir vivre uniquement entre eux, alors que c'est tellement plus riche d'être dans le monde universel. Mais moi, dans mon livre, j'ai voulu faire exactement le contraire. C'est-à-dire, j'ai voulu montrer que le sionisme était légitime du point de vue de la textualité d'Israël. Pourquoi ? Parce que le sionisme n'est pas, je crois, un État-nation qui fétichise la terre. C'est précisément l'inverse. Le sionisme, c'est l'histoire de la construction d'un pays qui se construit exactement comme on écrit un roman.
Ça, c'est le sionisme rêvé de Nathan Dever.
Le sionisme tel que je le définis, une certaine vision, mon sionisme rêvé.
En tout cas, oui.
Peut-être.
S'il y a des gens qui fétichisent la terre d'Israël, quand même.
Aujourd'hui, peut-être, bien
on
sûr,
est à Israël,
évidemment.
Oui.
Mais il y a deux, trois aspects qui sont, à mon avis, importants là-dessus. Dans mon livre, je fais, par exemple, presque une centaine, une cinquantaine de pages, une description, un éloge de la beauté de la ville de Tel Aviv, qui n'est pas anecdotique et qui n'est pas seulement un texte d'urbanisme. La ville de Tel Aviv, c'est le laboratoire, en un sens, du sionisme, en tout cas d'un certain sionisme, le sionisme urbain. C'est la seule ville au monde, à ma connaissance, qui tire son nom du titre d'un roman. Tel Aviv, le livre de Herzl, Altneuland, enfin la traduction de Altneuland en hébreu, où Herzl décrit le pays rêvé de l'État-nation, de l'État des Juifs tel qu'il l'imagine. Pays où régnera l'égalité des droits. Pays où la modernité sera absolue et où l'identité hébraïque et juive ne sera jamais, on ne va pas restaurer l'époque biblique, mais on va la projeter dans la modernité, etc., etc. La construction de Tel Aviv, c'est ça. C'est des pionniers d'une ville qui se disent, quand on va baptiser notre ville au début du XXe siècle, on va prendre le titre d'un roman, à savoir qu'on va y injecter une utopie littéraire et on va essayer de faire en sorte qu'elle puisse épouser la réalité. Je crois que du point de vue de Tel Aviv, c'est réussi. Il y a un mode de vie à Tel Aviv, il y a un Tel Aviving qui, par-delà les clichés touristiques, est éminemment profond d'un point de vue politique. Mmh. C'est une utopie politique qui a réussi. Et le sionisme que j'ai voulu défendre dans ce livre, cette certaine vision du sionisme, c'est précisément de dire ça, de dire le sionisme, contrairement à ce qu'on peut dire, il y a eu plein de courants de pensée, en tout cas dans les courants de pensée du sionisme qui m'intéressent, ce ne sont absolument pas des gens qui se sont dit « on va fétichiser la terre », qui se sont dit « on va restaurer l'époque biblique ». Au contraire, les vrais sionistes n'étaient pas les sionistes du courant cananéen qui pensaient qu'on revenait à l'époque biblique. Non, ils se disaient « on va construire un pays exactement comme on écrit un livre et donc déplacer la réalité presque, la littérature, l'imaginaire, dans la réalité ».
Et dans cette tension permanente, comme dans votre nom justement, entre l'ancien
et
le
moderne, exactement.
Pour revenir à la poésie, il y a un homme qui vous a inspiré ça aussi, qui incarne cette pensée, c'est Nachman Bialik.
Exactement. Et Bialik, c'est fascinant parce que lui aussi, c'est un des constructeurs du sionisme. C'est pour ça que je pense que mon éloge d'un certain sionisme n'est pas... il est peut-être rêvé à ma façon, mais il n'est pas complètement... il n'est même pas du tout désindexé d'une réalité historique. Bialik, c'est absolument fascinant parce que c'était un grand poète, un grand écrivain, un grand inspiré, textuellement c'est extraordinaire à lire parce que, en hébreu je veux dire, parce que lui il a parfaitement étudié d'un regard poétique le texte biblique et il arrive à ensemencer la langue moderne de l'hébreu de formules, de tournures issues de la Bible et en même temps modernes. Et Bialik c'est vraiment ça je crois. Il y a plusieurs poèmes où il décrit de façon vraiment déchirante une certaine forme de distance prise par rapport à la religion, notamment un qui a été traduit sur les marches de la yeshiva, de la maison d'études. Mmh. Et il a essayé d'inventer aussi cette nouvelle manière d'être.
C'est aussi un sortant, lui.
C'est aussi un sortant.
C'est pour ça que ça vous intéresse.
Exactement.
Aussi. Oui.
C'est pour ça qu'il m'inspire, c'est pour ça que je l'admire. Et alors, la notion de Oneg Shabbat qu'il a contribué à créer de façon moderne, c'est-à-dire de dire même quand on n'est pas religieux, on doit faire de ce jour un jour singulier, ça c'est quelque chose d'éminemment intéressant. Bialik est l'un des grands, grands, grands visages de ce sionisme-là.
Mmh. Oui. Il y a d'autres voix très dures envers Israël que vous convoquez dans votre livre, ce sont celles des prophètes. Et vous dites que les prophètes, évidemment, ils passent leur temps à avertir, à gronder les Juifs. Il y a parfois même des discours prophétiques qui ressemblent presque à des discours antisémites. La différence est ténue, parfois. Hein. Quelle différence vous voyez entre la saine colère des prophètes, c'est vous qui parlez comme ça, et le fiel antisémite ? À quoi ça se joue ?
C'est ça qui est passionnant, en effet. Il y a des textes des prophètes, dans Jérémie, dans Isaïe, partout ailleurs. On les lit, on voit quoi ? Des insultes. Des insultes englobant la totalité du peuple juif, hein, de dire vous êtes tous des idolâtres, vous êtes tous des canailles, etc. Dieu préfère encore les prières des idolâtres qui sont de bonne foi à vos sacrifices, etc.
Un peuple têtu.
Peuple têtu, des insultes pleuvent. Y a des menaces d'anéantissement. On va vous détruire votre temple, on va vous détruire vos villes, vous allez vivre en diaspora comme des malheureux, etc., etc. Donc en effet, on se dit, qui sont ces gens qui passent leur temps à dire les pires horreurs sur Israël, à souhaiter les pires horreurs au peuple d'Israël, et qu'est-ce qu'ils font dans la Bible ? Et en effet, je crois que la différence est peut-être ténue, mais elle est absolument centrale. Un prophète, contrairement à ce qu'on dit, ce qu'on croit, un prophète biblique n'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir. Ça, c'est une vision grecque. Gréco-latine du prophète qu'on a projeté sur l'imaginaire.
Un oracle, ça.
Voilà, exactement. C'est l'oracle qu'on a transposé à l'imaginaire biblique. Il peut prédire l'avenir, mais ce n'est pas le cœur de son activité. Et il y en a qui ne le font pas du tout. Le sujet, je crois, du prophète, c'est deux choses. C'est premièrement incarner la mauvaise conscience du peuple, au sens où, dans chaque génération, la loi de la foule est d'adorer des idoles. C'est le veau d'or, mais c'est pas le veau d'or, c'est tous les épisodes de la traversée du désert, et puis ensuite c'est tout ce qui se passe dans les juges, dans Samuel, dans les rois. À chaque génération, que ce soit les rois, que ce soit le peuple, que ce soit même parfois les prêtres, eh bien il y a une trahison complète de l'Alliance au profit d'une idolâtrie qui prend différentes formes. Ça peut être l'idolâtrie religieuse, idolâtrie des idoles, ça peut être l'idolâtrie du politique, l'idolâtrie de l'argent, enfin...
Et des ennemis qui s'abattent sur Israël.
Et voilà, exactement.
En punition.
Et les ennemis s'abattent sur Israël en punition. Et le prophète est celui qui, à chaque génération, avertit la foule pour lui dire ne tombe pas dans cette idolâtrie. Autrement dit, le prophète est celui qui peut hurler, qui peut dire du mal, mais qui le fait par amour. Il y a une violence de l'amour chez le prophète, et il y a non pas un amour de la violence, mais un amour par la violence verbale. Et ça me semble absolument central à identifier. Et alors la question qui se pose, c'est, on a modernisé tous les personnages de la Bible. Le prêtre est devenu le rabbin, le roi est devenu le premier ministre, etc. Qui sont les prophètes ?
T'as un manque de prophètes un petit peu aujourd'hui ?
Je crois que le champ intellectuel, il ne s'agit pas encore une fois d'avoir une lecture infantile de ce que c'est qu'un prophète, mais que le champ intellectuel doit avoir pour mission aussi d'être la mauvaise conscience des sociétés, par amour. Quitte à se faire parfois insulter, les prophètes ont souvent eu des vies très difficiles d'ailleurs. Ils se sont souvent fait, eux aussi, bien embêtés par leurs contemporains. Mais je pense que c'est absolument crucial. Mais il y a aussi quelque chose de très important dans cette fonction des prophètes, c'est de garantir l'alliance avec le texte, toujours. Et le prophète est celui qui vient rappeler au peuple d'Israël à chaque époque, arrêtez de croire que vous pouvez vous implanter directement dans le réel, que vous pouvez être puissant directement dans le réel.
Alors justement, vous m'avez fait découvrir un verset magnifique dans ce livre, issu du prophète Jérémie, qui dit, selon vous, le drame du sionisme. Le verset, c'est « Mikvé Israël Hachem, Yesurai, aret yekatevu. Dieu est une source de vie, un mikvé, ce bain rituel dans lequel on se trempe. Ceux qui s'en détournent seront inscrits dans la terre. » Ça veut dire quoi, ça ?
C'est incroyable. D'abord, cette comparaison de Dieu à un mikvé et à un bain rituel et au mikvé d'Israël. On a parfois d'ailleurs ce sentiment, même quand on nage, qu'il se joue quelque chose de très fort d'un point de vue spirituel,
sentiment
mystique,
poétique.
Un sentiment, voilà ce que Romain Rolland appelle le sentiment océanique. Y a deux aspects, à mon avis, qui sont importants. Dieu comme liquide. Dieu comme l'impalpable, Dieu comme le contraire d'une chose ou d'un objet, Dieu comme quelque chose qu'on ne peut pas toucher, ordonner, qui est précisément l'informe, le liquide et l'informe par excellence. Mais surtout, cette malédiction, elle est très étonnante, parce que si vous vous détournez de ce bain rituel, de ce Dieu comme mikvé, de ce Dieu comme liquide, comment on peut s'en détourner ? On peut s'en détourner en oubliant Dieu, mais on peut s'en détourner aussi en oubliant que Dieu est liquide. En croyant que Dieu est solide, en confondant Dieu avec, par exemple, le fétichisme de la terre. C'est la définition de l'idolâtrie politique. Et si vous vous en détournez, votre punition, ce sera d'avoir une place sur terre.
L'écriture dans la terre, on revient
à l'écriture. L'écriture dans la terre, c'est exactement. Et d'être, oui, vous avez raison, c'est, en plus c'est l'écriture, oui, pardon, je me souvenais mal.
Vous qui tenez au texte.
Bien sûr, c'est d'être écrit dans la terre, c'est encore plus que ça. Et votre punition, ce sera précisément de déserter le livre. Et en l'occurrence, cette écriture, le verset ne le dit pas, mais c'est une écriture qui ne dure pas. Parce que quand on a une alliance avec un texte, la terre vous rejette, la terre vous recrache. ou alors elle vous avale. Mais vous ne pouvez pas y être écrit à la manière d'un arbre.
Mais est-ce que ça veut dire, est-ce que Jérémy est en train de nous dire que la politique, ça conduit forcément à l'idolâtrie ?
Mais je crois. Et je crois que Jérémy nous le dit, et je crois que toute la Bible nous le dit. Finalement, c'est toute l'aventure très difficile inaugurée par Moïse. Pour les patriarches, c'est super facile de ne pas être idolâtre. Parce qu'ils ne sont pas dans une relation politique. Parce qu'ils ont conditionné leur refus de l'idolâtrie au départ du politique. C'est le Lech Lecha, et puis c'est le fait de quitter sa terre natale, et c'est le fait d'errer comme des nomades en famille. Donc c'est très facile de ne pas être idolâtre. Il suffit d'être dans l'hospitalité vis-à-vis de l'étranger. Il suffit d'avoir une tente qui est ouverte, etc. etc. Dès lors que le peuple grandit, et que va se poser la question, à l'époque des patriarches d'ailleurs, on chasse les enfants qui ne sont pas dignes de l'Alliance. Et dans chaque génération, ceux qui ne sont pas dignes, hop, dehors. Donc autrement dit, il n'y a pas de problème de politique. Dès lors qu'il y a un peuple, avec Moïse, se pose tout de suite la question de l'idolâtrie. Et de Moïse jusqu'à la fin de la Bible, dans chaque génération, aussi bien dans la foule, dans le peuple, que chez les droits et chez les dirigeants, chacun quasiment a eu son moment de tentation idolâtre. Mmh. Et c'est comme une sorte de fatalité ou de malédiction, ça on peut le voir ainsi si on est un peu grec en mettant un registre tragique, où on pourrait dire d'épreuves toujours recommencées. Mmh. Et moi ce que je trouve absolument fascinant, c'est que 2000 ans après l'écriture de la Bible, quand le sionisme se crée, et que ses fondateurs disaient pour beaucoup, on est sorti de l'époque biblique, c'est bon, maintenant on s'implante dans le réel, c'en est fini des malheurs historiques, etc. Eh bien, on refait exactement les mêmes expériences que dans la Bible, ouais. De division de la société israélienne, de tentation
des rois corrompus.
Des rois, des questions de la corruption. Toute la Bible est d'une modernité sur ce point qui est absolument stupéfiante, ou c'est peut-être l'inverse. C'est notre modernité qui est biblique à un niveau et d'une façon absolument hallucinante.
Oui, mais c'est un peu désespérant parce qu'on se dit, du coup, le sionisme conduit forcément donc à ses dérives et à la Vodazara, à l'idolâtrie. Comment on s'en sort alors ? Parce que le sionisme, c'est le retour à la politique, c'est le retour à la terre. Donc un sionisme cachère, si on peut dire, c'est impossible.
C'est une question super difficile que vous posez, mais je...
Il faut que Nachman, faut que Nachman Bialik soit président de l'État.
Exactement. mais justement, c'est ce que... À mon avis, il y a deux aspects. Premièrement, mon livre n'est pas du tout un livre qui serait une sorte d'éloge de la diaspora contre Israël. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Je pense que l'expérience du sionisme vaut le coup, dans tous les sens du terme, au sens littéral même. Elle vaut le risque des épreuves, des difficultés qui sont prises. Maintenant, pour vous répondre de façon plus concrète, j'ai l'impression quand même que parmi les grands problèmes qu'affronte aujourd'hui Israël, il y a un problème dont on parle assez peu et qui est, me semble-t-il, le problème central. C'est qu'Israël, avant le 7 octobre, était dans un état de division terrible qui, si je le schématisais, ce serait en gros une division entre deux manières de concevoir le sionisme. Une manière consistant à dire, je caricature, ne m'en voulez pas, je le dis, d'être simpliste, je le fais volontairement. Mais une manière consistant à dire, l'État d'Israël n'a pas à être un pays occidental. On est un pays juif, on abandonne l'héritage des droits de l'homme, de la littérature profane, tout ça, c'est fini. Maintenant, on est le pays des Juifs, le pays des Juifs puissants. On oublie aussi la mémoire de l'exil, des ghettos, etc. Et on en retourne à une lecture littéraliste de la Bible, voire intégriste, mais littéraliste. Et l'autre, à l'autre pôle, inverse, vous avez des gens qui disent non, Israël est un pays qui doit être complètement occidental, qui doit se construire sur ces valeurs-là issues de l'Occident, et qui doit un peu tourner le dos, complètement tourner le dos à cet héritage biblique. Ça d'ailleurs, c'est intéressant, parenthèse, mais c'est la preuve qu'Israël n'est pas un pays colonial, parce que ce dilemme-là, c'est le pays qu'ont traversé tous les pays qui sont sortis de la colonisation.
L'Inde.
En Inde, vous avez exactement le même situation de division. Je pense que la grande question pour les années à venir, c'est de dépasser cette opposition qui est débile, qui est stupide, et de montrer que, il y a une théorie biblique des droits de l'homme et de la démocratie à construire, à écrire, à penser. Modestement, dans ce livre, j'essaye de montrer qu'à partir de la Bible, sans faire référence à des auteurs comme Voltaire, comme Spinoza, comme Hegel, etc., non, à partir de la Bible même, on peut penser quelque chose qui s'apparente à une notion d'État, qui s'apparente à un concept du politique, qui s'apparente à une notion de la démocratie. Et en même temps, de montrer que cette vision juive d'être dans la démocratie se nourrit de la Bible, mais qu'elle n'est pas une vision littéraliste. Et je crois qu'il faut dépasser ce clivage.
Aux antipodes de ça, il y a une chanson israélienne qui a fait 48 millions de vues sur YouTube et qui vous agace. Israélien écoute ça.
Oui.
Qu'est-ce qui vous agace dans cette chanson? C'est quoi le problème?
Moi, elle ne m'agace pas. Ouais. C'est un personnage, mais c'est vrai en plus. Je me permettrai pas de dire que la chanson est agaçante. Sur un point, c'est que la société israélienne a vécu un tel traumatisme après le 7 octobre. Elle a été dans un état de... Je l'ai vu, moi, deux semaines après, et tout le monde, tous les gens qui ont été l'ont vu, mais la résilience de cette société a été juste hallucinante par rapport à cette irruption absolue du tragique. Avoir besoin d'une chanson qui donne de l'optimisme et qui dit « ça va être encore mieux, ça va être encore mieux », je le comprends tout à
oui,
fait.
Oui, mais on mêle Dieu à cette chanson.
Bien sûr.
C'est ça le point.
Bien sûr.
Je vous cite.
Oui, oui.
Dans cette chanson, vous entendez une spiritualité dictée par un mélange de bigoterie et d'optimisme béat.
Exactement.
C'est moins gentil que ce que vous venez de dire.
Non, bien sûr. Mais d'abord, c'est un personnage dans mon livre ouais. que j'appelle l'Israélien, sans le nommer, qui est une sorte de synthèse de tous les Israéliens les plus intéressants avec lesquels j'ai dialogué pendant ces 3 ans. Et il se fait que parmi ces Israéliens, il y en a un avec qui j'ai parlé et qui m'avait dit même qu'il avait quitté Israël. Enfin, il a quitté Israël depuis. Et je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit « Odio Tertov » pour ça. Je lui ai dit « Ah bon, qu'est-ce que tu lui reproches à cette chanson ?» Et c'était précisément ça, et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Il me disait, est en train d'apparaître en Israël, non pas comme le disent tout le monde, un retour du religieux, mm-hmm. À savoir un retour de forme ancienne du religieux, mais l'émergence d'un judaïsme New Age, d'un judaïsme en fait où la notion de croyance prend la forme la plus stupide, la plus irrationaliste, la plus superstitieuse qui soit, avec cette idée d'un Dieu qui serait le maître du destin, avec cette idée que si tu veux construire ta vie, si tu veux penser l'avenir, etc., tu ne dois pas t'en remettre à la liberté humaine, ce qui est le cœur de la pensée juive. Le Dieu de la pensée juive n'est absolument pas un Dieu idolâtre, une marionnette, et encore moins une sorte de chef de mafia qui serait gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Dans le Talmud, toute la réflexion sur ce qu'on appelle les issourines chez la Hava, les souffrances d'amour, est une réflexion centrale. Et dans le livre de Job, c'est absolument central, etc. Le Dieu juif n'est pas un Dieu qui est gentil avec les gentils. C'est pas du tout comme ça. Et il suffit pas de lui dire, s'il te plaît, sois gentil, pour que la réalité du monde et la réalité de la vie soient favorables. Et en effet, cette chanson, elle exprime de l'optimisme. Mais derrière cela, la vision de la religion et la vision même du lien entre la religion, la mystique et le politique me semble éminemment problématique. Parce qu'il y a une sorte d'optimisme qui fait complètement l'économie de la liberté humaine. On pourrait mettre ça en parallèle. Attendez, je ne vais pas me tromper, mais je crois que c'est bien Rabbi Akiva qui, c'est dans une Haggadah, mais qui un jour est dans un champ et qui voit la fille de l'homme le plus riche d'Israël, qui est devenu extraordinairement pauvre, qui est en train de manger des graines dans l'excrément d'un âne, parce qu'elle ne peut plus se nourrir. Et c'est le symbole, si vous voulez, de la déchéance absolue d'Israël. La fille du mec le plus riche qui ne peut plus manger et qui est obligée de manger les excréments d'un âne. Et Rabbi Akiva voit ça, il faut vérifier, mais je crois que c'est lui, et il dit « Ashrechem Israël ».
Bienheureux Israël.
Bienheureux Israël, vous êtes heureux Israël.
Pourquoi ?
Parce que il se dit là, enfin il y a plein de manières de l'interpréter, mais il se dit là que dans l'expérience la plus terrible du tragique, se joue la possibilité du sursaut. Et je crois qu'on peut mettre en opposition Odio Tertov et Ashrechem Israël, la chanson Odio Tertov, et que c'est deux manières complètement opposées de penser le destin et de penser surtout la liberté inhérente à la condition d'Israël.
Je voulais terminer cet entretien, Nathan Dever, en mentionnant et en écoutant un passage d'un grand maître qui nous a quitté récemment, Armand Abécassis. On a eu la chance de pouvoir faire une soirée en son honneur ensemble début janvier, oui. Quelques mois avant sa disparition. C'est quelqu'un qui a compté pour vous par ailleurs. Je vous fais écouter un cours qui date des années 90 qu'on a mis en ligne sur Academy.
Ce dont ils ont besoin, on n'a pas le droit de le retirer. Et de la même manière que je sais, moi juif, comment depuis 48 et depuis 2000 ans, les Shana Abba Birushalayim, j'ai besoin d'une terre, absolument j'ai besoin d'une terre. Alors Ve'atel Rakamocha comprend que les Palestiniens ont besoin aussi d'une terre, c'est comme toi. Et dans lui une terre. Donc je ne le fais pas par stratégie. Je donne Gaza parce qu'il a besoin d'une terre comme moi. Et s'il y a quelqu'un qui peut comprendre à quel point un homme peut vouloir une terre, c'est moi juif, puisque je bagarre pour la terre. Je suis capable même de passer sur le cadavre de l'arabe. Alors, Ve'atel Rakamocha, dans lui aussi une terre, il a besoin d'une terre pour vivre. Et même Dieu ne peut rien contre cela. Voilà ce qu'il faut dire aux religieux aujourd'hui. Donnez le Golan, allez hop là. Jérusalem, il faut garder.
Jérusalem, il faut garder.
Ouais, c'est très intéressant.
Ouais. Oui, qu'est-ce que ça vous inspire?
Bon, ça fait quelque chose d'entendre sa voix. Et vous parlez de cette soirée que vous aviez organisée quelques temps avant son décès. Et vraiment, j'aimerais saluer cette soirée que vous avez faite parce que c'était quelqu'un de tellement humble. Et ce soir-là, dans cet hommage rendu à son travail, dans cet hommage public avec énormément de monde, je crois que ça a été très émouvant pour tout le monde. Ce que dit ici Armand Abécassis, vous me dites ça date des années 90.
Alors, je n'ai pas la date exacte, oui. Mais ça sonne comme, à mon avis, c'était autour des accords d'Oslo. C'est-à-dire qu'il y avait cette euphorie, tout le monde y croyait. Je ne sais pas si Armand Abécassis a longtemps tenu ce discours, j'en ai aucune idée. En tout cas, là, il l'a dit. Ma question, en fait, c'est plus personne dit ça aujourd'hui. Mmh. Ou alors une toute petite minorité de gens qui passent pour des bisounours, pour des rêveurs, etc. Là, on peut pas dire qu'Armand Abécassis était un islamo-gauchiste. Qu'est-ce qui s'est passé chez les Juifs? Pourquoi plus personne ne peut dire ça aujourd'hui?
Je pense qu'il y a, à mon avis, deux aspects. Sur d'abord le fond de ce discours, il faut tenir compte. Je crois que c'est un élément d'éthique intellectuelle qui est central, que les événements historiques, quand ils sont importants, ils changent en fait toutes les cartes. Et il faut avoir parfois l'humilité intellectuelle de faire ce qu'en philosophie on appelle une réduction phénoménologique, de réduire, d'oublier tout ce qu'on pense, de faire table rase de tout ce qu'on pense, et de se dire là, vis-à-vis par exemple du 7 octobre, j'essaie de penser le monde à l'aune de ce qui est, et pas à partir d'une grille de lecture que je viens imposer. En l'occurrence, personne ne peut parler au nom d'Armand Abécassis qui n'est plus là pour parler, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on fait ce travail intellectuel, probablement, dirait-il, enfin j'en sais rien, mais en tout cas moi, c'est la position qui est la mienne, que là, la question, elle n'est pas là. La question, elle est qu'après ce qui s'est passé le 7 octobre, alors que Gaza avait été fait l'objet d'un retrait israélien, etc., un État palestinien, moi, j'y suis favorable sous des conditions très précises. Et si ces conditions n'adviennent pas, je ne suis pas favorable à son avènement sans ces conditions. Mmh. Ces conditions, elles sont très simples, c'est qu'un 7 octobre ne puisse plus avoir lieu, qu'on ait une réflexion sur la forme politique que prend cet État. Si c'est une dictature, moi, je n'ai pas envie de faire l'apologie d'une dictature. Si c'est une démocratie, mais que le Hamas regagne les élections législatives comme il les avait gagnées la dernière fois, là, vous avez une aporie intellectuelle. Si on ne pense pas à cette aporie, dire qu'on est pour l'existence d'un objet politique sans définir cet objet politique, c'est de l'hypocrisie, c'est de la mauvaise foi. Donc moi, je prends très au sérieux le sort des Palestiniens et donc je réfléchis fondamentalement à la forme que pourrait prendre cet État palestinien. Il y a une troisième question, c'est qu'il y a aujourd'hui en Israël des gens qu'on appelle des Arabes israéliens, des musulmans, enfin des Israéliens qui ont des citoyennetés musulmanes, une religion pardon musulmane et citoyenneté israélienne, qui ont une égalité juridique totale. Enfin, ils peuvent être députés, ils peuvent être médecins, alors ils font l'objet de discriminations, comme en France il y a des discriminations, comme en France il y a des inégalités, mais juridico-politique il y a une égalité, d'ailleurs même pas égalité parce qu'ils font pas l'armée. Donc si vous avez un État palestinien, est-ce que ce sera un espace vide de juifs? C'est une question abyssale quand même. Je raconte dans ce livre sur une très longue partie où je fais toute l'histoire de Jérusalem entre 48 et 67. Mais il ne faut pas oublier qu'entre 48 et 67, quand c'était donc à la Jordanie, Israël, enfin la Jérusalem Est, la vieille ville de Jérusalem, était interdite, de facto,
pas un juif.
D'accès aux juifs, pas un juif pour aller sur les lieux saints. Les synagogues étaient brûlées, la Hourva était brûlée, les lieux étaient profanés d'une manière ou d'une autre, etc. etc. Les lieux saints aujourd'hui de l'islam existent en Israël, on peut y prier, vous avez des mosquées qui sont ouvertes, vous entendez le muezzin, etc. Donc ça, c'est une question abyssale. Est-ce que, moi je ne suis pas, et donc je réponds aussi à votre autre question, c'est que je pense qu'il faut avoir un discours humaniste. Les gens dont vous parliez tout à l'heure qui s'en sont pris à la nonne chrétienne à Jérusalem, la haine, la montée par exemple d'incivilité, d'agression, de crachat envers les chrétiens, même si ça vient d'une mini-minorité d'Israéliens, c'est minuscule, mais c'est inadmissible. Ensuite, il y a une autre question qu'il faut poser. À Hébron, par exemple, il y avait une vie juive, historique, jusqu'en 29. Il y a une signification religieuse juive à cette ville. En 1929, en effet, il n'y a plus de vie juive parce qu'il y a eu un pogrom abominable et que les juifs sont partis, un pogrom qui ressemblait d'ailleurs un peu dans ses modalités de massacre à celui du 7 octobre. Alors, moi, je suis pour qu'il y ait un territoire palestinien, mais est-ce que des pèlerins juifs auront le droit de venir, ne serait-ce qu'à titre de touristes, à venir y prier? Donc, toutes ces conditions, elles sont centrales à poser. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut essayer d'être sérieux dans l'analyse. Maintenant, pour vous répondre, et je ne veux pas être trop long, mais il y a en effet une évolution de la communauté juive.
Qui préexiste longuement au 7 octobre.
Je pense que les choses s'accélèrent. Je pense que c'est très lié à la textualité. Qu'il y a aussi des gens qui disent arrêtez de nous casser les pieds avec vos trucs d'intello, etc. Arrêtez d'être la tête dans les concepts, voyez le réel. Donc il y a aussi une forme parfois d'anti-intellectualisme. Armand Bécassis incarnait un immense judaïsme français qui s'est construit dans l'exigence intellectuelle. Ne nous voterons pas dans un rapport... Il y avait une dimension un peu prophétique chez lui, d'ailleurs. Je veux dire, il n'était pas en train de dire à ses fidèles, à ses disciples, de leur dire « Vous êtes super, vous êtes parfait, etc. » Parfois, quand il donnait des cours, le samedi, ça parlait fort, ça secouait. Et il disait des choses, parfois, qui créaient des vraies interrogations chez certains. Je crois que c'est la mission d'un penseur. Et je crois que c'est la mission d'un intellectuel. Et je crois que c'est aussi la mission d'un rabbin, etc. Ce judaïsme-là, il faut qu'il survive. Et c'est un judaïsme français, il faut qu'il survive, il faut qu'il se pérennise. Il est aujourd'hui menacé par des phénomènes évidemment extérieurs, l'antisémitisme, et par aussi des mutations internes. Et permettez-moi juste pour finir de saluer le travail que vous faites, Academ. Je sais que vous fêtez vos 20 ans bientôt, mais parce que vous êtes vraiment, et je ne le dis pas par flagornerie parce que vous m'invitez, vous le savez, vous êtes les garants de ça, de ce judaïsme-là, textuel, intelligent, questionnant, non pas donneur de leçons, mais toujours à se remettre en cause, toujours à réfléchir, toujours à être un rapport vif au texte, à se construire en fécondité avec les autres savoirs, avec les autres cultures, avec les sciences profanes. Et ça, c'est à mon avis extrêmement précieux et c'est un combat qui vaut la peine d'être mené.
Ben merci donc à double titre, Nathan Dever.
C'est moi qui vous remercie.
Il faut se plonger dans cette grande fresque qui est Aimer Jérusalem, publiée chez Gallimard. À bientôt,
merci.
Nathan Dever. Et merci à vous pour votre fidélité.